RFI, toute l'actualité, Florent Guignard.
Ce fut un week-end sanglant, un week-end terroriste. L'État islamique officiellement vaincu en Irak, en passe de l'être en Syrie, a revendiqué 3 attentats à Paris samedi soir, en Afghanistan et en Indonésie dimanche. Bonjour Wassim Nasser.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste du djihadisme sur France 24. Est-ce que la force de l'État islamique aujourd'hui, eh bien, ce sont ces franchises comme en Indonésie ou ce que certains appellent les loups solitaires comme à Paris samedi soir?
Oui, on peut dire ça comme ça, mais bon, après pour les loups solitaires, moi je suis pas du tout adepte de cette théorie.
L'expression est controversée.
Voilà, parce que bon, le seul loup solitaire, c'est Breivik, et c'était pas du tout du djihadisme. Donc à chaque fois qu'on creuse dans les histoires de djihad, on voit qu'il y a un réseau, aussi rudimentaire soit-il, mais il existe. Donc aujourd'hui, la force de l'État islamique, oui, c'est d'arriver en tout cas à motiver toujours des gens à agir en leur nom, malgré les défaites sur le territoire, en Irak et en Syrie. Donc pour une simple raison, qu'ils ont réussi mine de rien à construire ce qu'on peut appeler leur mythe. Quand on voit par exemple la bataille de Mossoul, 9 mois, c'est plus long que la bataille de Stalingrad, la bataille de Sirte, 7 mois, Marawi aux Philippines, vous parlez de l'Indonésie, ça a duré 5 mois, en Afghanistan ils sont implantés avec des milliers de combattants, donc le mythe il est là et ils arrivent, ils l'ont prouvé bien sûr avec l'attaque de Trèbes et l'assassinat du colonel Beltram, et là ce n'est que la suite, sans parler de tous les attentats qui ont été déjoués. Sans oublier aussi que ce genre d'attaque, donc au couteau ou bien à la voiture, comme à Nice, etc., donc avec des armes ou des moyens civils transformés en armes, n'exclut pas que il y aurait d'autres attentats d'une autre ampleur en préparation. Par exemple, quand il y a eu un attentat déjoué contre la base navale de Toulon, 2 jours après, on a eu le 13 novembre. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Ça va de pair.
Alors, sur l'attentat de samedi soir à Paris, très vite, 2 heures après, la revendication de l'État islamique a été annoncée. Quel crédit on peut apporter à ces revendications aujourd'hui?
Bah, en tout cas, en l'occurrence, celle-là, on peut lui porter tout le crédit possible, parce qu'ils ont aussi diffusé une vidéo du terroriste hier, où il vouait allégeance à Baghdadi, donc le calife de l'État islamique, et où il expliquait son acte et son geste. Après, pour le timing, 2 heures, 3 heures après, en général, ça arrive vite quand ils sont sûrs de leur coup, et ça prend un peu plus de temps, des fois, quand ils sont pas sûrs de leur coup.
Et comment ça fonctionne? Est-ce qu'on sait aujourd'hui, parce que les structures de l'État islamique sont fortement désorganisée, notamment depuis la chute de Raqqa. Comment elle fonctionne aujourd'hui, l'agence de propagande Hamak de l'État islamique? Est-ce qu'on le sait?
Bah, il faut imaginer en tout cas que malgré les annonces d'Europol, par exemple, il y a quelques semaines, comme quoi leur capacité de propagande, de communication était entamée, qu'ils sont toujours présents, en l'occurrence sur Telegram, pour ne citer que Telegram, et que leur production en termes de propagande, de communiqués, de littérature, d'écrits, de vidéos, elle n'est pas du tout entamée. Pour la simple raison que tout est décentralisé. Ça veut dire les serveurs, ils peuvent être n'importe où. Europol, quand il a mis les mains sur des serveurs, c'était aux Pays-Bas, aux États-Unis. Donc tant qu'il y a matière à produire, donc des vidéos et une idéologie derrière, les réseaux sociaux, les applications ne sont qu'un moyen. Comme les livres étaient un temps le moyen pour véhiculer une idéologie ou une autre, ce n'est qu'un moyen.
Alors, la doctrine de l'État islamique en matière de terrorisme, est-ce que vous diriez qu'elle a changé depuis les défaites militaires en Irak et en Syrie?
Je dirais pas qu'elle a changé, mais en tout cas, depuis les défaites militaires en Irak et en Syrie, ils ont plus les moyens d'envoyer des équipes comme celle du 13 novembre. Voilà, matériellement parlant, ils ont plus le moyen de faire ça.
Mais est-ce qu'ils ont... C'est-à-dire qu'il y a plus de gros attentats très organisés avec une logistique préparée.
Après, il faut jamais dire jamais. On ne sait pas, parce que il faut pas oublier aussi qu'ils sont très présents au Sinaï en Égypte. Ils ont quand même descendu un avion de ligne russe il y a pas si longtemps que ça. Ils sont très présents en Afghanistan, en Indonésie, comme vous l'avez très bien mentionné. D'ailleurs, l'Indonésie, c'était plusieurs attentats d'ampleur en même temps, parce que hier aussi, il y a eu une attaque contre la police. Donc c'était quelque chose de bien organisé, avec des personnes qui revenaient de Syrie. Voilà, ils sont présents aux Philippines, ils sont présents dans plusieurs territoires où ils peuvent, où ils ont la capacité d'organiser des choses.
Alors précisément, Wassim Nasser, le rôle des revenants, ceux qui ont rejoint l'État islamique en Syrie ou en Irak, quand ils partent, quand ils quittent le territoire, même si c'est dans des conditions particulières, sous les bombes en général, est-ce qu'ils ont reçu des consignes particulières de l'état-major de l'État islamique pour perpétrer des attentats dans leur pays?
Ça dépend où. En ce qui concerne les Occidentaux, je pense que bon, ils sont pour une bonne partie fichés, identifiés, donc ils constituent pas un danger immédiat parce qu'ils vont être mis en prison ou emprisonnés chez les Kurdes là-bas, etc., etc. Le danger vient surtout des ressortissants des pays du Sud qui sont pas répertoriés, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup, par exemple, de travailleurs indonésiens des pays du Golfe ou des travailleurs d'Asie centrale qui étaient en Iran, qui ont rejoint l'État islamique, et ceux-là, on les connaît pas, ils sont pas comptabilisés. Et donc, pour certains, oui, ils ont eu des consignes. Par exemple, on sait, moi je l'ai dit il y a plus d'un an et demi, que les ressortissants d'Asie du Sud-Est vont constituer un danger imminent, ce qui s'est articulé là pendant les derniers mois, en Indonésie et ailleurs. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Mais je pense pas que la question se pose de la même manière en Occident, parce qu'on peut pas faire de parallèle, par exemple, avec les revenants de l'époque du djihad en Afghanistan, parce qu'ils revenaient dans leur pays, ils n'avaient rien commis. Et il fallait qu'ils commettent un acte criminel dans leur pays, comme le gang d'Ouroubé, par exemple, pour qu'ils soient appréhendés. Aujourd'hui, les djihadistes, les terroristes, sont du mauvais côté de l'histoire, si je puis dire. Donc, du moment où on rejoint un groupe comme l'État islamique, pour un occidental, on sait que ça va finir en prison ou mort. Donc voilà, il n'y a pas de... Mais le problème se pose dans d'autres pays où les chiffres sont beaucoup plus grands, en Afrique du Nord, et où les légendes sont beaucoup moins bien suivies. En l'occurrence, donc, Afrique du Nord, Asie centrale, et bien sûr l'Asie du Sud-Est.
Merci Wassim Nasser. Je rappelle donc que vous êtes le spécialiste des filières djihadistes sur France 24.